Et recoucou, recoucou, c'est à nouveau moi. Ben, vous êtes toujours là, c'est génial. Recoucou. Alors, dites-moi, je viens de changer ma caméra. J'ai l'impression que ça a l'air de bien aller. Le son est OK. J'ai l'impression qu'elle fait bien le point. C'est cool. Dites-moi si ça fonctionne bien au niveau du son et de l'image. Donnez-moi un petit peu vos retours. Et puis surtout, ben, qu'est-ce que ça. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est est-ce que ça te parle? Ouais, merci Sophie. Est-ce que ça te parle les différences de libido? Voilà. Est-ce que tu vis toi-même ben, des souffrances dans ce thème, justement, les différences de libido entre les hommes, les femmes, dans le couple? Que tu sois homo, hétéro, bi, enfin voilà, quel que soit ton genre, est-ce que ça te parle? Alors, qu'est-ce que j'ai comme commentaire? C'est parfait, merci, merci, merci. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, et de partager la vidéo. Mylène, tu me dis, oui, mon mari en a moins que moi. C'est pas souvent dans ce sens-là, mais ça arrive. Moi, j'en ai rencontré énormément. Oui, les besoins ne sont pas les mêmes. Et donc, du coup, Cyrielle, comment est-ce que vous vivez ça? Voilà. Moi, je rencontre beaucoup de femmes en accompagnement. Bah, elles trouvent que c'est très souffrant. C'est très souffrant parce que souvent, je dirais bien souvent, je dirais pas que c'est à chaque fois comme ça, mais très souvent, l'homme a plus envie que la femme dans le couple hétéro. Je sais pas si on va parler du coup le fait qu'il y ait un homme ou qu'il y ait une femme, j'en sais rien. Bon bref, je vais prendre ce truc-là parce qu'il faut bien que je pose ma conscience à un endroit, sachant qu'on s'en fout que ce soit homme-homme, femme-femme, voilà, hein. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre que celui qui a moins de libido, en général, il souffre très souvent d'une sensation de dévalorisation et surtout, en tout cas, ce que je remarque, une peur d'être abandonné par l'autre. Donc très souvent, il va prostituer, hein, on revient encore sur cette énergie de la prostitution, il va souvent, très souvent prostituer son énergie sexuelle, c'est-à-dire se soumettre, il s'agit de bien ça. J'avais encore ce matin un super témoignage de cela dans le groupe de Vulve Originelle. Elle se soumet au désir de l'homme. En fait, on ne fonctionne pas du tout pareil. Ne serait-ce qu'il faudrait vraiment déjà partir de la base et comprendre la physiologie. Nous ne sommes pas du tout régis par les mêmes hormones, déjà à la base. Donc ça peut permettre aussi dans un couple, si on a un qui souffre voilà, d'une différence de libido, que ce soit que quelqu'un en ait plus ou que quelqu'un en ait pas assez, voilà, quand il y a vraiment des grandes différences entre les deux, c'est important de pouvoir comprendre les choses, ne serait-ce que dans le côté physiologique. Les hommes sont régis par la testostérone. D'accord? Ils produisent... Donc de la testostérone qui fait que bah, ils produisent du sperme, des spermatozoïdes, voilà, ils n'obéissent pas du tout au même cycle. Et leur fonction, enfin dans le reptilien profond, leur fonction, c'est d'ensemencer un maximum de ventre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire ça va être de diffuser un maximum leur patrimoine génétique pour faire survivre l'espèce. En gros, c'est ça. Les hommes ont vraiment ce programme bah, de faire survivre l'espèce en diffusant un maximum leurs semences. Vous avez déjà vu la quantité de sperme qu'il y a dans un éjaculat. Vous voyez, c'est quand même assez hallucinant. J'avais fait une toile il y a quelques années là-dessus où je représentais justement l'abondance, la générosité du masculin et de l'éjaculation masculine, où dans un seul éjaculat, ben, il y a une quantité incroyable de vitalité et de vie. Mais en fait, l'homme, il est vraiment fait pour diffuser son patrimoine génétique. Et donc forcément, eh bien, il va avoir beaucoup plus d'envie, ça va être de la pression pour lui à l'intérieur. Il peut y avoir beaucoup de... C'est ça, de pression, de tension à l'intérieur, donc il faut qu'il diffuse. Voilà. Alors que nous, et puis regardez aussi comment se propage le sperme. Vous voyez, c'est le spermatozoïde, en fait, c'est pas un mouvement lent, hein. Ça va très vite, ça va très très vite. C'est il y a beaucoup d'énergie qui est déployée pour justement aller au but. Voilà. Donc à la base, ça peut permettre en tout cas de voir ces différences de fonctions, ça peut permettre d'apaiser certaines choses et d'arrêter de croire qu'on est anormal. Et voilà, il n'y a pas d'anormalité là-dedans. Chez les femmes, nous ovulons une fois dans le mois, hein, au 14e jour, logiquement après le premier jour du cycle, fin des règles, et nous ovulons d'un œuf. Et tout ça, c'est régi par l'œstrogène. Enfin, il y a tout avec un pic d'œstrogène, voilà, où on a une montée d'excitation pendant la phase, justement, d'ovulation. Après, on a une descente, justement, quand il n'y a pas fécondation, on a une descente où on va rentrer dans la phase lutéinique avec le corps jaune. Enfin, bref, je vous passe tous les cours de bio, on s'en fout. Mais l'idée, c'est que, voilà, on va vraiment vivre, nous, des libidos assez cycliques et moins continues. Voilà. Et quand tu regardes comment il fonctionne un ovule, je ne sais pas si tu as déjà vu un ovule, enfin, c'est pas un grand excité quoi, de la vie. Hein. C'est, il tourne, il est tranquille, tu vois. Rien que quand tu observes comment la différence de mobilité entre du sperme et un ovule, tu as déjà compris la différence du désir entre les hommes et les femmes. Voilà. Donc, moi, je suis plutôt ovule et j'ai besoin de ce temps, vous voyez, ça tourne tranquillement. Il y a un temps pour que, du coup, il y ait quelque chose qui se déclenche. Le truc, c'est que l'idée, c'est de vraiment réussir à trouver un terrain d'entente. Et là, ça va demander à faire, je dirais, faire la gymnastique de la verticalité. C'est-à-dire que nous, les femmes, pour pouvoir nous ouvrir et s'offrir en bas, on a besoin d'avoir ce cœur, de pouvoir pénétrer avec notre cœur. On a besoin de se sentir accueilli dans le cœur de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, par exemple, en tant que femme, j'ai besoin que mon homme me fasse de la place à l'intérieur de sa poitrine, que je puisse me déposer en lui, que je puisse faire des câlins, mais des câlins pas sexuels, être dans quelque chose qui serait de la tendresse, dans lequel il n'y a même pas d'arrière-pensée d'ouverture sexuelle. Vous voyez, juste que mon âme puisse rentrer en résonance avec l'âme de mon partenaire. D'accord? Et forcément, quand ça c'est possible, quand cette ouverture de l'autre, donc de mon partenaire, s'ouvre à mon cœur, à mon âme, eh bien, automatiquement, moi, le bas, ça s'ouvre. Alors que l'homme, lui, il n'est pas du tout comme ça. Lui, il a besoin de se sentir accueilli en bas. Et oui, il a besoin de se sentir accueilli dans son sexe, c'est-à-dire qu'il a besoin de sentir que son sexe et son pôle électrique, hein, son pôle électrique est en bas, donc il a besoin de pénétrer, de se sentir accueilli en bas pour pouvoir ouvrir le haut. Et ça va être ça, toute la gymnastique. Et ça peut durer toute une vie parce que de pouvoir s'accorder cœur-sexe, pour moi, c'est une œuvre alchimique de toute une vie. Hein. Moi, je suis passée vraiment par des espaces où j'ai vraiment eu des grosses chutes de libido dans ma vie. Les avortements, les grossesses, les allaitements, la pilule avec progestative, voilà. Je suis passée par des grands moments de grandes chutes de libido. Et je suis quelqu'un, en fait, qui a une connexion quand même de conscience quand même très grande et j'ai besoin… Mes canaux ne sont pas forcément les mêmes que ceux de mon partenaire. Mon partenaire va être très dans le visuel, il va être plus… oui, c'est ça, dans le visuel, dans les choses… alors que moi, je suis beaucoup plus une kinesthésique énergétique, vous voyez Pour que je m'ouvre, il n'y a pas besoin finalement de m'exciter trop sexuellement. Et il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça, sauf que les hommes l'ignorent. Ils ne savent pas. En fait, ils n'ont pas le mode d'emploi pour accéder justement au niveau de conscience d'excitation de leur partenaire. Ils s'imaginent qu'une femme fonctionne comme eux. C'est-à-dire qu'un peu de masturbation du clitoris et hop, l'affaire est jouée. Que nenni. Il y a des femmes, moi j'en rencontre beaucoup, hein, dans le toucher conscient périnéal, ça demande un temps où on se pose, un temps où on peut se parler, où on peut se regarder, où on peut se sentir en sécurité. Hein. Et au fur et à mesure, eh bien, il y a des espaces de consentement qui s'ouvrent naturellement. Sauf que les hommes, enfin, il n'y a pas que les hommes, hein, peut y avoir aussi des femmes qui fonctionnent comme ça, des femmes qui se sont justement moulées au système masculin. Alors, je vais peut-être plus parler du système masculin, où finalement, il faut s'exciter le clitoris, il faut s'exciter le pénis pour arriver à avoir un rapport sexuel. L'idée, là, c'est peut-être pour certaines femmes et certains hommes d'arrêter de croire que la sexualité serait que génitale. Voilà. La sexualité, pour moi, elle commence quand on a l'énergie sexuelle, elle est partout et tout le temps. Il n'y a pas besoin de rencontrer deux sexes pour qu'il y ait du sexe. On peut avoir du sexe, d'être dans une excitation psychique très forte sans qu'il y ait de sexe. Vous voyez ? On peut vivre des relations amoureuses très fortes, complètement asexuées. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et on vit des moments de grâce et d'extase intenses, vous voyez ? Et tout cela, c'est comment on en parle avec son partenaire pour qu'il comprenne, il, elle comprenne, eh bien, nos propres voies d'entrée. Mais ça veut dire que ça nous demande de les connaître. Vous voyez, ça nous demande de connaître nos voies d'entrée, de savoir comment nous fonctionnons. Et chacun doit prendre la responsabilité de ses voies d'entrée, homme ou femme. Vous voyez ce que je veux dire? Et une fois que je me connais, eh bien, je peux peut-être partager cela avec mon ou ma partenaire. Moi, j'ai trouvé un système. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, moi, le sexe où on s'excite, où c'est toujours le même scénario, allez, fellation, cunnilingus 69, on s'embrasse, on s'excite, le sexe, et hop, je te pénètre, hop, j'ai des orgasmes, hop, t'éjacules, et hop, finalement, on s'endort. Honnêtement, pour moi, ça m'a vite gavé dans ma vie, en fait. Vous voyez, ça m'a vite gavé. Ça veut pas dire que je pratique plus comme ça, mais ce n'est pas l'espace dans lequel j'y retrouve le plus d'intensité, de profondeur de moi-même. Et il a fallu que je trouve des stratagèmes pour finalement sortir de ce schéma, parce que beaucoup de couples sont enfermés là-dedans. Et je me souviens avoir partagé à mon partenaire pour sortir de cette habitude, parce que ça devient comme une espèce d'habitude. Le truc où finalement, pour se rencontrer sexuellement, il faudrait passer par toutes ces étapes-là. Ben, il a fallu déconstruire. Ça demande beaucoup de courage, la déconstruction. Et du coup, je suis passée par l'espace du massage. Moi qui pratique le toucher conscient périnéal, eh bien, j'ai demandé finalement à ce que ce ne soit pas du sexe, mais juste un toucher. Un toucher, une présence consciente à l'autre. Et finalement, de rentrer dans quelque chose presque de même immobile. De prendre le temps d'appréhender l'autre, que du coup celui qui a l'habitude de faire, eh bien, ne fasse plus, et puisse aussi s'abandonner à quelque chose qui soit complètement différent. En fait, ça demande beaucoup de courage de casser les codes tels qu'on les connaît jusque-là pour pouvoir recréer autre chose. Alors forcément, il y a un tâtonnement, hein, on tâtonne au départ, voilà, ça demande beaucoup de communication, d'amour. Beaucoup d'amour, d'acceptation que l'autre n'est pas comme nous, il n'a pas les mêmes fonctionnements. Et s'il n'a pas les mêmes fonctionnements, c'est comment on s'accorde, comment on réussit à s'accorder ensemble. Voilà, alors je vais voir un petit peu vos petits messages, les amis. Alors, oula, mais vous m'en avez fait vachement. Linda, tu me dis, je vais revenir là, je me suis toujours fait vivre la frustration pour ma part, j'ai toujours eu plus besoin sexuel que mes partenaires. Ouais, mais est-ce que tu connais finalement, Linda, tes voies d'entrée ? Tu vois, parce qu'il y en a plusieurs sortes des voies d'entrée. Moi, je suis une kinesthésique énergétique, mais il y en a qui sont dans le visuel, d'autres qui vont être vachement dans l'érotique, d'autres vont être dans le jeu. L'idée, c'est déjà de comprendre quelles sont nos voies d'entrée. corporelle et psychique, enfin, et également sexuelle, enfin, dans la globalité. Et l'idée, c'est de pouvoir quand même en partager avec avec son partenaire. Moi, par exemple, je connaissais pas l'espace du jeu. C'était moi, j'étais qu'une kinesthésique. Et donc, bah, à un moment donné dans ma vie, j'ai été emmenée à vivre des mises en situation où on a joué, vous savez, avec des déguisements, des trucs comme ça, ou de jouer avec certains objets, ce genre de choses. Voilà, moi je me suis ouverte à ça, à un moment donné. C'est plus le cas actuellement, mais je sais que ça, que mon partenaire, lui, ça lui plaisait beaucoup. Donc, j'ai eu joué. Du coup, après, ça a été, l'invitation, ça a été de moi le faire rentrer dans mon champ à moi, avec mes propres voies d'entrée. C'est pas, finalement, je rentre dans ton jeu et je m'oublie. C'est non, il y a quelque chose qui doit être un peu interactif. Hein, on essaye de comprendre comment ça se vit chez l'autre et d'expliquer à l'autre et vice-versa ce qui nous ferait plaisir. Alors, tu nous dis, Mélanie, coucou, moi je suis en début de relation et pour le moment c'est harmonieux, mais la différence est un peu des fois dans comment on aborde le rapport, la différence de comment on fait monter le désir. Merci, Mélanie, pour ton partage. L'idée, comment faire monter le désir? J'aime beaucoup cette phrase-là. En fait, à la base, nous les femmes, on ne nous a pas appris à faire monter notre propre désir, très peu, vous voyez. Le désir, en fait, on apprend à être désirante, mais pas à désirer. Et les hommes ne nous laissent quelquefois, les hommes ou le partenaire, la partenaire, quelquefois, ne nous laissent pas forcément le temps de faire monter ce désir-là en nous. Parce que ce n'est pas un programme qui est inné, c'est-à-dire que nous nous appuyons sur le désir de l'autre. Hein, moi, j'ai fait ça pendant des années et ce n'est pas un problème. Je m'appuyais sur le désir de l'autre pour me dire « Ah, s'il me désire, ça veut dire que moi aussi, je désire. » Mais finalement, comme je n'étais pas en contact ni en lien avec en bas, je me servais de l'autre pour me faire croire que je désirais aussi. Mais je désirais surtout lui faire plaisir. Vous voyez ? Mais mon propre désir, je passais par l'excitation sexuelle. Mais pas par le véritable désir. Souvent, il y a une confusion entre désir sexuel, enfin, oui, le désir et le désir sexuel. Enfin mince, je me trompe. Le désir et l'excitation sexuelle. Pour moi, ce sont deux choses différentes. On peut être excité sexuellement très fort, mais finalement, ne pas être dans ce désir profond. Vous voyez, que tout soit aligné. Le sexe, l'utérus, le cœur et l'esprit. Et voilà, on peut être dans un désir, une excitation sexuelle très forte, mais en fait, notre propre essence, le désir de notre propre essence, elle n'y est pas. C'est pour ça que je travaille sur les niveaux de consentement. Vous voyez ? Et donc, l'idée, c'est de pouvoir comprendre et appréhender, nos différents niveaux de consentement. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Angélique, tu me dis, comment expliquer le fait qu'une femme puisse avoir plus de libido que son homme ? Eh bien, c'est qu'elle a des hormones qui lui permettent, ou que bah finalement il y a une belle énergie au niveau du sacré, du sacral. Pour moi, c'est pas un problème en soi. Pour moi, c'est pas un problème. Au contraire, c'est comment cette libido peut être aussi, qu'on soit homme ou femme, avec cette belle libido, comment elle peut aussi être canalisée. Et être, quand je dis canaliser, c'est qu'elle n'est pas obligée de s'exprimer dans le lien à l'autre. Vous voyez ? Je reviendrai sur quelque chose après de l'enfant et de l'enfance. Pour moi, j'ai cette sensation que la libido peut être au service de la création. Cette énergie sexuelle, elle peut vraiment monter pour nourrir d'autres centres. Moi, elle vient vraiment énormément nourrir mon cœur. Voilà, ça vient donner de l'humidité, de l'ouverture au cœur. Et le cœur peut vraiment descendre dans ma vue, c'est-à-dire d'être dans, j'appelle ça, dans des moments de grâce. Cette libido, pour moi, j'ai cette sensation qu'elle peut vraiment rencontrer la chambre christique et inversement. J'ai cette sensation que mon couple, Marie-Madeleine-Christ, il y a une respiration où du coup il y a une création commune. Et ça ne se fait pas forcément à travers La rencontre sexuelle, ça va se faire à travers, vous voyez, quand j'écris l'oracle de la vulve originelle, ou quand j'écris, je suis dans cette énergie sexuelle, qui, dans ce désir, il y a un désir là de transmettre une joie, de vouloir partager au monde. Mais ça ne passe pas par de l'excitation sexuelle. Hein. Il y a beaucoup d'artistes qui vivent ça. C'est-à-dire que quand il y a une forme d'extase dans la création, le fait d'être un artiste ou une artiste, il y a une forme de célébration de la vie où finalement, on a une dose d'ocytocine qui est tellement goûtue, on peut toucher des espaces de grâce intérieure, que quelquefois l'excitation sexuelle, pour moi, elle vient un peu comme anesthésier cette grâce. Vous voyez, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est tellement difficile. Mais l'idée, c'est de pouvoir trouver une autre voie. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut arrêter d'être excité sexuellement, ce n'est pas ça. Mais je pense qu'il y a d'autres voies de passage pour pouvoir s'harmoniser, peut-être ne plus être dépendant de la relation sexuelle à l'autre pour se sentir en équilibre. Voilà. Et... moi, je me souviens, en tout cas, il y a une période de ma vie où, en fait, j'avais cette sensation, et je le retrouve auprès de beaucoup d'accompagnés, où, en fait, les femmes, c'est comme si on est programmé pour prendre en charge la frustration masculine ou la frustration de l'autre, comme la maman prend en charge la frustration d'un petit garçon ou d'une petite fille. Vous voyez ? Et ça a été source de discorde avec mon compagnon, par exemple, parce que je lui ai dit, mais en fait, on demande aux femmes de savoir gérer les érections des hommes. Mais je lui ai dit, mais ça serait bien aussi que les hommes puissent gérer tout seuls leurs érections. Et que si chacun était responsable de sa propre énergie sexuelle, peut-être qu'il y aurait moins de désaccords. Alors, ça nous a valu quand même quelques disputes. Voilà, quelques désaccords. Parce que je reste intimement persuadée que chacun doit être autonome, c'est-à-dire avoir une forme d'autonomie et de connaissance de soi avant de vouloir imposer à l'autre sa propre vérité, ses propres besoins personnels. Et c'est là où il y a beaucoup de désaccords, c'est que très souvent on peut être dans des couples où il y a des différences de niveau de conscience. Hein, la vibration, la rencontre sexuelle se fait aussi dans des différences de niveau de conscience où ça peut être intéressant de voir jusqu'à quel point finalement ce sexe que l'on crée, que l'on génère entre nous, ça vient réparer des espaces de l'enfance qui n'ont pas pu être apaisés. Hein, pour moi, dans la sexualité, dans le rapport sexuel, j'ai cette sensation, mais je me trompe peut-être, tout est possible de remettre en question, mais j'ai cette sensation que dans l'espace sexuel, en fait, on vient réparer continuellement notre vie qui s'est déroulée entre zéro de notre conception jusqu'à nos 7-8 ans, à peu près. Voilà. Et on vient réparer en fait des choses, des vides, des manques, des absences, des violences. Et selon chacun comment on est dans sa propre réparation avec son enfant intérieur, il peut y avoir des désaccords. Et c'est OK, ça fait partie du jeu. L'idée, c'est de pouvoir, je le dis toujours, c'est de pouvoir communiquer. C'est que chacun puisse prendre la responsabilité de là où il en est dans sa propre libido. Voilà. Je me souviens... je me souviens quand un jour un accompagné m'avait confié « Je comprends pas, depuis un mois, j'ai plus de libido, ma compagne a souvent envie, mais moi finalement, il n'y a plus rien. » Et en fait, en creusant un petit peu, en fait, il était au bord du burn-out. Vous voyez, il était pressé comme un citron par son travail. Il venait d'intégrer une nouvelle boîte, donc il voulait absolument faire bonne impression, voilà, faire ses preuves. Donc il était pressé au niveau de son énergie vitale, hein, tout simplement, pressé comme un citron. Ce qui fait qu'arrivé le soir, il n'y avait plus de jus, quoi. Sauf qu'il a une compagne qui était extrêmement demandeuse. Et c'était compliqué, parce que du coup, il y avait vraiment des gros désaccords. Je crois aussi que c'est hyper important, quand il y a des grosses différences de libido, c'est de voir... à qui, à quoi sert notre énergie sexuelle? Voilà, moi quand j'ai des chutes de libido, ce qui peut arriver, souvent je pose la question, à quoi sert cette énergie sexuelle? Alors, à quoi je résiste? Ça peut être ça. À quoi je résiste? À quel espace de conscience est-ce que je résiste? Donc, il y a vraiment une grosse énergie qui est vraiment mise en place pour bloquer, en général, bah, une part de la petite enfance ou une prise de conscience. Ouais, il y a quelque chose qui résiste. Donc, ça me demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie vitale pour la maintenir à distance. Ça peut être aussi parce que je suis en gestation. Alors, quand je suis en gestation, par exemple, quand je suis en train de peaufiner, quand je suis dans cette intériorité, vous voyez, dans ce truc gestationnel où je suis dans cet espace de vide, dans un vide de sens, vide de goût, vide de, il n'y a plus rien. Quand je suis dans cet espace vide, d'accueil de moi, de mes parts d'ombre, en fait, il n'y a pas beaucoup d'excitation sexuelle. Hein. Alors, par contre, j'ai remarqué, en tout cas, en ce qui me concerne moi, c'est que le sexe, l'énergie sexuelle me permet de faire déverrouiller des résistances. Voyez, c'est-à-dire que pour moi, la sexualité n'est plus un espace de plaisir, c'est une voie d'éveil. Et d'éveil, et c'est ce que je partageais ce matin avec un de mes groupes Vulve Originelle, c'est qu'on peut orgasmer sans orgaste, on peut orgasmer avec orgaste. Alors quand je dis orgasmer, c'est-à-dire se laisser traverser par le 1, c'est-à-dire que recevoir l'énergie dans tout son corps et ça te traverse tout, donc il y a vraiment une sorte d'extase, je dirais même presque d'intrase, hein, un état d'intrase. Donc tu peux avoir de l'orgasme avec de l'orgaste, c'est-à-dire des mouvements contractiles du vagin, de l'utérus, palpitations et tout machin, mais tu peux orgasmer également des émotions. Voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont coupées de leur libido parce qu'elles ne sentent pas leur partenaire prêt ou suffisamment conscient et solide pour accueillir la puissance émotionnelle cachée derrière certains orgasmes et certains orgastes. C'est-à-dire que quand on orgasme, hein, c'est très fort, en fait, il y a vraiment comme une explosion un petit peu... énergétique. Alors, c'est à la fois une implosion, une explosion. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Mais donc, du coup, il y a beaucoup de résistances qui sautent en même temps. Il y a beaucoup de résistances psychiques, physiques. Et donc, à ce moment-là, c'est souvent la voie d'entrée de l'émotion. C'est-à-dire que l'émotion qui a été refoulée, elle a cette possibilité de pouvoir ressortir comme de la lave, tu sais, qui sort d'une espèce de... vous savez, quand il y a une éruption volcanique, il y a déjà le chapeau qui sort et après, pouf, voilà, ça sort, quoi. Eh bien, ça demande à ce que la personne qui soit là dans la rencontre, eh bien, elle tienne la route. Vous voyez, qu'elle tienne la posture, qu'elle tienne un point d'appui à la fois physique, émotionnel, psychique. Enfin, vous voyez, qu'il y a un point d'appui. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas, en fait, aller trop loin dans le sexe. Parce qu'inconsciemment, il y a des peurs de ne pas être accueillies à la hauteur de la puissance de leurs émotions. Souvent, il y a des peurs hein, cachées derrière, justement, ces chutes de libido. Il y a des grosses peurs. Et en fait, on maintient la peur, justement, de sa propre puissance. Donc, vous voyez, on met une espèce de chapeau sur son cratère, hein, vraiment sur son bassin, pour éviter, justement, de sentir. Et on se persuade qu'on a des chutes de libido. Moi, j'étais une grande, grande championne hein, de cette croyance-là. L'idée, c'est de pouvoir sortir du truc absolument sexuel pour se mettre dans la rencontre et dans l'échange. Voilà, c'est sortir déjà de ça. Et qu'il n'y a pas de but à atteindre. Lâchons la grappe aux hommes sur le fait de devoir bander, sur de devoir éjaculer et sur le fait qu'ils doivent nous faire jouir. Ne serait-ce que de désastraliser la rencontre. Désastraliser, c'est enlever la mémoire et les attentes et les jugements. Hein, de pouvoir enlever cela de la rencontre honnêtement, ça met beaucoup d'espace. Et cet espace, ça laisse la place à tellement d'autres choses qui sont créées dans l'instant. C'est comme une œuvre d'art. Finalement, si tu n'as plus besoin de bander, si tu n'as plus besoin de jouir, ni d'éjaculer, si tu n'as plus besoin de devoir, même toi en tant que femme, voilà, orgaster, mais qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on crée finalement? Avec mon partenaire, en fait, on parle beaucoup du fait aussi que nos hommes ont besoin d'être touchés en dehors d'un acte masturbatoire. Et là, je vais faire des heureux. Et oui, nos hommes ont besoin de rencontrer notre cœur dans leur pénis. Et faire un massage de pénis, c'est pas du tout la même chose que masturber. Les périnées des hommes sont complètement désinvestis de présence. Le périnée des hommes est complètement désinvesti de présence. C'est-à-dire que la plupart des femmes ont l'habitude, entre guillemets, de branler, d'astiquer le pénis, d'accord, la verge, et ça s'arrête là. Eh bien, la verge, elle prend bien naissance quelque part, d'accord. Et puis, c'est pas non plus qu'une verge, hein, le sexe d'un homme, il y a les bourses, il y a le bassin, il y a les ischions, il y a la symphyse pubienne, il y a les adducteurs. Et tout ça, c'est une zone qui est extrêmement comprimée chez les hommes. Alors, si nous, les femmes, nous apprenions non seulement à conscientiser qui nous sommes, mais en plus à comprendre comment aussi, par exemple, un pénis d'homme, il a besoin d'être massé. Ça sera l'objet d'un autre live. Je vous expliquerai comment est-ce qu'on peut masser, je parle bien de massage, comment on peut faire un toucher conscient périnéal à un homme sans qu'on soit dans cette notion de sexe. Vous voyez ? Et ça leur fait un bien fou. Puis tout d'un coup, le pénis, il a besoin d'être reconnu aussi. Très souvent, il y a des hommes, en fait, leur pénis n'a pas été reconnu par leur mère. Ils sont restés comme des petits garçons un peu eunuques castrés psychiquement, où la mère, en fait, les a un peu castrés de leur pouvoir. Elle ne les a pas accompagnés dans leur version homme. Et ils sont toujours restés encore le petit garçon à maman. Vous voyez, le tout petit garçon à maman qui doit lui faire plaisir, qui doit faire comme elle dit et tout le machin. Il n'y a pas eu d'émancipation, d'accord. Et ce petit garçon, il attend. En fait, finalement, il y a toujours cette attente. Il attend d'être reconnu dans son sexe. C'est pas maman qui a pu le reconnaître, forcément, parce qu'elle, elle voulait garder un petit garçon, rester dans cet amour, mais il a besoin qu'une femme le reconnaisse. Et très souvent, dans le couple, il y a à un moment donné, souvent quand on devient parent, il y a des espèces d'enchevêtrement dans le rôle de parent, d'amant. Il y a quelque chose un peu qui s'entremêle là-dedans. Il y a des histoires personnelles qui s'entrechoquent dans la sexualité, ce qui fait que c'est compliqué, ça devient compliqué. Le petit garçon intérieur attend que maman reconnaisse le pénis et la mère, honnêtement, elle a autre chose à faire que de s'occuper d'un petit garçon qui a perdu, qui cherche son pénis. Et l'idée, c'est que c'est possible de pouvoir recréer ce lien amoureux avec, dans un couple parental, mère-père et puis amant-amante, ne serait-ce qu'en posant la main. En posant la main sur, l'homme peut poser la main sur la vulve sans qu'il y ait de sexe, vous voyez ce que je veux dire, et juste être dans cette conscience que, en fait, on peut être dans cet endroit sans qu'il y ait quelque chose à faire ou à produire ou à générer. Et la femme peut aussi poser sa main sur le sexe de l'homme sans qu'il y ait quoi que ce soit à venir masturber, générer, bander, sans aucun résultat. Et ne serait-ce que de rester comme ça, d'être avec, en présence de l'autre, d'avoir comme cette forme de reconnaissance, c'est « je te vois avec mon cœur et mon cœur te voit dans ton énergie, dans ton sexe. Je te vois dans ton sexe. » Et « je te vois », ça ne veut pas dire « je t'excite ». Vous voyez, c'est comment on met vraiment une conscience amoureuse disponible pour soi et donc du coup, ça peut ouvrir d'autres voies de passage chez l'autre. Et j'avoue que c'est hyper plaisant Moi, je sais que mon homme a besoin de se sentir reconnu dans cet espace-là, en dehors de la masturbation, et Dieu merci. Et moi, j'ai besoin d'être reconnue dans mon corps, dans ma globalité. C'est pas, ma voie d'entrée, c'est certainement pas, vous voyez, chez moi, Karine Morère, en tant que personnage, en tant que femme manifestée, ma vulve n'est pas ma voie d'entrée. Voilà, c'est une voie de passage, mais c'est pas la voie d'entrée pour qu'elle s'ouvre. J'ai besoin que ce cœur, voilà, d'un temps pour pouvoir me déposer dedans. C'est ce que j'œuvre tous les jours, hein, de me déposer dedans en sécurité. Et quand je sens que confiance et sécurité sont en alchimie, il y a quelque chose qui peut se mettre à circuler. Mais voilà ce que je voulais vous partager concernant les différences de libido. Alors, elle a une connexion énergétique intellectuelle. Alors, Jérémy, qu'est-ce que tu me racontes? Que penses-tu de la méditation orgasmique dont parlait... Ben, j'adore la méditation orgasmique. Je trouve ça extraordinaire. C'est une façon de sortir de l'objetisation sexuelle, où on est là, où chacun se masturbe avec le sexe de l'autre, mais finalement, il n'y a pas de présence réellement. Alors, attention, j'ai rien contre ça. On a le droit d'être des bêtes de sexe qui pensent qu'à ça, qui éjaculent partout et qui orgasment. Et voilà, on a le droit à ça. Hein. C'est pas un problème en soi. Hein. L'idée, c'est qu'à un moment donné, je pense que dans l'évolution d'un couple, au sein d'un même couple, eh bien, on a des voies de passage complètement différentes et que ça demande vraiment une intelligence, je dirais, une intelligence, c'est que souvent, quand cette intelligence n'est pas possible dans un couple, quand ça n'arrive pas, en tout cas, à communiquer, c'est là où on arrive à atteindre des séparations. Voilà, ou des gens qui vont, enfin, ou des couples adultères. J'ai rien contre l'adultère. Hein. Moi, j'ai fait ça pendant des années, mon partenaire aussi. Et on a trouvé vraiment un équilibre de couple où on se sent plus obligé d'être fidèle l'un à l'autre. C'est plus un concept ou quelque chose où on s'est engagé l'un vers l'autre d'être fidèle. En fait, c'est quelque chose qui est tellement naturel. Enfin, moi, je me verrais même pas. Enfin, je vois même pas. Enfin, c'est pas quelque chose qui est forcé. Vous voyez ce que je veux dire? Mon énergie sexuelle, je la transcende avec mon partenaire. Mais j'ai pas été comme ça dans ma vie tout le temps. J'ai eu plein de partenaires, hommes, femmes. Et c'est OK. J'ai aucun point de vue là-dessus. Ça fait partie de l'expérience aussi d'être un peu tous azimuts. Vous voyez, et puis à un moment donné, à force d'être tous azimuts, ça trouve justement une œuvre, un canal qui sert l'âme, qui sert la conscience, qui sert aussi de réservoir. Alors, Laurence, tu me dis coucou, coucou, Laurence. Bonjour, après une vie de couple de 14 ans, la rencontre d'amants et de nouveaux compagnons, c'est un homme qui m'a enseigné, qui m'a fait me découvrir dans le doux, le slow sex, et j'aime. Eh ben, c'est génial. Merci Laurence pour ton partage. Oui, vive le slow sex. Justement, Emmanuel Duchesne a écrit un bouquin sur le slow sex. Alors, j'ai ensuite pris cette manière de vivre la sexualité et c'est dans cette façon de se découvrir, de se respirer, de se pénétrer tout doucement. C'est une libido heureuse et ouverte, heureuse. Ouais. Il y a aussi, quand on a des partenaires qui... En fait, c'est ça, quelquefois on peut tomber sur des partenaires pendant toute une partie de vie qui sont énormément dans le faire. Ils se sont construits avec le porno et ils ont vu une façon de faire et ils s'imaginent que ça fonctionne comme ça, que la sexualité doit fonctionner comme ça. Or, on se rend bien compte que c'est la vie sexuelle, c'est pas le porno, c'est la vie sexuelle, c'est une rencontre, c'est une alchimie sur plusieurs plans de fréquence. Et l'idée, c'est comment certains hommes, on les amène en douceur à, comment dire, à déformater, à déconstruire leur façon, donc leur ego. Il y a un ego sexuel à déconstruire pour les hommes, pas toujours simple, hein, pour eux, mais qu'en fait, jusque-là, ils ont peut-être cru que c'était des bons amants, qu'il fallait faire comme ça, parce qu'ils bondaient bien et tout, et ils avaient l'impression que leur partenaire jouissait, ça se trouve, c'était juste de la simulation. Mais il y a un moment donné, il faut déconstruire cet ego sexuel pour le pouvoir le reconstruire. Et pour pouvoir le déconstruire, l'invitation, c'est de leur apprendre à être dans l'être. Et ça, ça demande, nous, en tant que femmes, dans l'acte, de le sentir quand ils sont plus dans l'être et qu'ils font, qu'ils rentrent dans le faire. Enfin, moi, je suis vraiment une antenne de réception plus. Et du coup, c'est un point d'appui pour mon homme. En tout cas, quand on a des rencontres, je sens exactement à quel moment il sort de l'être pour faire. La vibration n'est plus la même. Pour moi, mais moi, c'est une hypersensibilité de ce côté-là. Donc, c'est comment je lui indique là ce que je ressens. Vous voyez, ce que je ressens, la différence de fréquence, et que je l'invite à se recentrer sur lui-même et non plus sur ce qu'il voit, sur ce qu'il entend ou ce qu'il faut qu'il fasse. Et ça, mon compagnon dit, ce qui l'a énormément aidé, c'est le fait de se bander les yeux, de quitter en fait sa voie d'entrée qui est très visuelle et de quitter le regard, donc on cache. Et le fait de se bander les yeux, honnêtement, c'est en fait, ça, pour l'homme qui a l'habitude de faire, qui a l'habitude de devoir contrôler, d'être l'homme viril, qui doit savoir faire jouir, voilà, l'homme qui porte un petit peu tout le conditionnement patriarcal, ben, le fait de lui bander les yeux, c'est déjà une première étape, voilà, pour que du coup il puisse non plus se coller sur son regard, sur sa voie d'entrée qu'est le regard, mais peut-être accéder à d'autres espaces intérieurs commencer à affûter ses sens kinesthésiques, ses sens énergétiques, pouvoir percevoir l'autre en dehors du regard, le sentir dans la vibration. Et ça, c'est un entraînement. C'est un entraînement, donc ça demande effectivement de pouvoir pratiquer, mais en changeant les voies d'entrée. C'est-à-dire, là, ce soir, mon chéri, bouge pas, ça va être 50 nuances degrés, mais à l'envers, c'est moi qui vais prendre le contrôle. Et donc, du coup, oui, vous pouvez vous amuser avec l'homme. Ils attendent que ça. Nos hommes attendent que ça, qu'on puisse les prendre en main, qu'ils puissent s'abandonner. Ils ont tellement l'habitude de devoir tenir bon, faire vivre la famille, être des bons pères de famille, être des bons amants, savoir transmettre le meilleur d'eux-mêmes, avoir des beaux objectifs dans leur vie, être des gagnants, être des hommes puissants, virils, avec un code d'honneur. Vous voyez ce que je veux dire? Les hommes, ils sont formatés à ça. Eh bien, il y a du travail. Parce qu'honnêtement, de les accompagner dans ce déformatage, eh bien, c'est accepter qu'ils rentrent dans leur vulnérabilité, qu'ils rentrent dans une autre forme de sensibilité, qu'ils puissent s'abandonner à eux-mêmes, eh bien, à des mains de femmes qui sont prêtes aussi à accueillir leur vulnérabilité. Je vous dis ça parce que quand j'ai commencé à œuvrer sur le pénis sacré l'année dernière, ça va faire un an que j'ai commencé le pénis sacré, j'ai jamais reçu autant de messages de haine quand j'ai partagé les pénis au repos avec des animaux de pouvoir devant. Les vulves, c'était passé, vous voyez. Mais qu'on présente un masculin dans son plus simple appareil, c'est-à-dire pas en érection, qu'on le montre dans sa vulnérabilité, dans ce qu'il est, dans sa vie, en tant qu'être humain, ça fait peur, quoi. Donc, il y avait un refus total d'accepter le pénis au repos. Enfin, les hommes passent la plupart de leur vie, de leur journée, le pénis au repos. Et ça, personne ne veut le voir. Moi, j'ai jamais reçu autant de messages de refus, de haine, de dégoût quand j'ai partagé justement des gravures de pénis au repos. Et ce qui était très touchant, vous voyez, cette différence de libido, c'est que ça pourrait être que l'humanité puisse accepter la vulnérabilité des deux sexes. Vous voyez, il n'y a pas plus de femmes blessées que d'hommes. Il existe autant de femmes blessées que d'hommes blessés. Et l'invitation, c'est que chaque sexe, pour qu'il n'y ait plus de différence de libido, c'est que déjà, on puisse constater nos propres blessures, constater les blessures de l'autre sexe, et puis se relier dans cette compassion. Dans cette compassion, parce qu'on a réussi déjà à regarder nos propres blessures. Comment tu veux regarder les blessures de l'autre si tu n'as pas déjà commencé à regarder les tiennes? Donc pour moi, la différence de libido, c'est aussi ça, c'est apprendre à comprendre les blessures qui sont en jeu. Et souvent, bah, les chutes de libido, c'est qu'on veut aussi garder des blessures sous contrôle. On ne veut pas laisser le petit garçon émerger, ou on ne veut pas laisser la petite fille émerger, parce que ça pourrait être trop douloureux. Alors, vous avez beaucoup de commentaires. Hein. Ouh là là, c'est un sujet qui vous passionne. Alors, j'ai Mylène qui dit « Bravo Laurent, c'est un sujet que vous pratiquez. » Alors, quelle différence on a entre orgasme et orgaste? Alors, très belle question. L'orgaste, c'est, comment dire, le fait d'avoir, quand on est dans un acte masturbatoire, dans une excitation sexuelle, au bout d'un moment, on atteint un paroxysme, c'est-à-dire que le clitoris, je parlais pour les femmes, hein, pour les hommes, ça se manifeste régulièrement par l'éjaculation, mais pour nous, en fait, ça va se manifester. Donc, le clitoris va rentrer en érection, les bulbes, le gland, les arches, tout ça, ça rentre en érection. Il y a une diffusion d'hormones, l'ocytocine et tout le machin qui vont être libérés. Et au bout d'un moment, on arrive dans une espèce de paroxysme qui va créer des contractions du vagin, une accélération du pouls, les orteils peuvent être flex. C'est très contractile, ça peut être assez violent selon l'hétéro. Corporel, ça c'est l'orgasme. Mais on peut orgaster sans qu'il y ait orgasme. L'orgasme, c'est beaucoup plus émotionnel, c'est le fait d'accepter de se laisser traverser par de l'énergie. Ça demande un temps, hein, de se laisser orgasmer ou une certaine conscience. Orgasmer, pour moi, c'est faire un avec l'énergie qui se présente. On peut orgasmer d'une musique, on peut orgasmer d'un plat. On peut orgasmer avec un arbre, on peut orgasmer de plein de choses, mais ça n'a pas besoin forcément de sexe. Alors les deux peuvent s'unir, on peut avoir un orgasme tout en étant dans l'orgaste. On peut orgaster sans orgasme et on peut orgasmer sans orgaste. Voilà, pour la petite information. C'est pareil, pour les hommes, ils peuvent éjaculer sans avoir orgasmé. C'est-à-dire qu'ils peuvent déverser leur sperme sans avoir franchement un état vibratoire intense. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des hommes, ils peuvent déverser, mais ils n'ont rien ressenti dans tout leur corps. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre commentaire ? Alors, pof, qu'est-ce que j'arrive là, Alexandra ? Qu'est-ce que tu nous dis ? Cela est un merveilleux chemin, mais souvent tellement d'attentes inconscientes ou conscientes, cela demande beaucoup de temps pour sortir de ça. Bah, ça demande toute une vie, voire même plusieurs. Enfin, moi, c'est le constat que j'en ai. L'idée aussi, et ce qui est énorme, c'est que il y a un ego spirituel, il y a un ego des blessures de l'enfance, et il y a un ego sexuel. oui, il y a un ego sexuel aussi. Et très souvent, enfin moi j'y suis tombée, donc je le comprends parfaitement, il y a ce vouloir atteindre quelque chose, hein, un état orgasmique, un état divin à travers le sexe. Moi j'ai couru après ça pendant des années. Et donc en fait j'accusais mon homme d'être complètement incapable de m'amener là. Mais il fallait bien un coupable. Hein. Vu que j'y arrivais pas, c'était forcément sa faute, c'était pas de la mienne. Donc en fait j'étais coincée dans un orgueil spirituel, sexuel surtout, sexuel spirituel, il n'y a pas trop de différence, mais bon, on va le dire comme ça, où finalement je faisais toujours, j'avais toujours des rencontres sexuelles dans un but d'éveil, de faire quelque chose, d'atteindre un truc, de faire l'orgasme divin, de rencontrer Dieu et tout machin. Et finalement, bah, quand j'ai arrêté ça, déjà, j'ai lâché la grappe à mon partenaire et j'ai pu vraiment vivre l'instant comme un instant de grâce. Il y a beaucoup de femmes qui se prennent les pieds dans le tapis et qui voudraient goûter autre chose. Donc, qui fantasment sur une version de leur sexualité sans être dans l'accueil, dans l'instant de ce qu'elles sont, de ce que ça se vit, de comment ça se vit. Donc, il y a un refus. Donc, quand elles sont en train de vivre une relation sexuelle, sont déjà en train de comparer. Ouais, mais ça ressemble pas à ce que je devrais ressentir. Oui, mais Karine, elle a dit ça, je voudrais atteindre ça. Oui, mais tel écrivain écrit ça. Alors, c'est foutu. On a déjà les pieds dans le tapis et honnêtement, c'est pas nourrir la relation à ce moment-là, c'est s'en éloigner. Parce que chaque relation, chaque rencontre a besoin de se soustraire de la précédente et de se soustraire de ce à quoi elle devrait ressembler. Et donc la rencontre à ce moment-là, c'est, enfin, c'est une œuvre d'art abstraite. Moi, je suis une artiste, en fait. Donc, en tant qu'artiste, on ne sait pas où la goutte de peinture va tomber. Oui, c'est une œuvre d'art, ouais, quand, surtout quand tu utilises des fluides et les. Voilà, c'est quand tu utilises la peinture liquide et que tu la laisses un petit peu aller là où elle doit aller, bah, tu ne sais pas, il n'y a pas de projection sur le résultat. Bah, c'est un peu la même chose, en fait. La sexualité, ça pourrait ressembler à une œuvre d'art abstraite. C'est-à-dire, on ne sait pas où on va. On ne sait pas quels espaces ça va ouvrir. D'ailleurs, il n'y a même pas de notion de ce que ça devrait ouvrir ou pas. C'est on se laisse danser ensemble et puis on voit ce qui arrive, quoi. Et c'est OK si l'ego s'en mêle au passage. Ça fait aussi partie du jeu. Voilà. Et que si l'ego s'en mêle à un moment donné, c'est OK. Voilà, c'est que ça devait être comme ça. Les amis, il est déjà 13h20, punaise. Oh là là, je suis indécrottable, j'arrive pas à m'arrêter à 30 minutes. Merci à vous toutes. Merci à vous toutes et tous d'être là, fidèles. Vous êtes montés jusqu'à plus de 40 personnes en live avec moi ce midi, je suis honorée. Comme quoi, je vois que c'est vraiment un sujet qui a vraiment besoin d'être abordé. J'aborderai le sujet du massage du pénis sacré à un autre moment. Je ne sais pas quand. D'ailleurs, je me demande s'il ne faudrait pas carrément que j'initie des couples, en fait, à ce que c'est qu'un toucher conscient périnéal. Initier des couples parce que je vois à quel point, quelquefois, ça a besoin d'être guidé, que ça a besoin d'être de conscience amoureuse et qu'en fait, quelquefois, quand on est en couple, il y a tout de suite les chemins émotionnels qui entrent en jeu et qui font de la friture de la friture. Alors, quand il y a une tierce personne qui vient un petit peu comme créer un contenant sécure où justement les deux enfants les deux blessés en tout cas vont pouvoir se déposer, il y aura une écoute. Il y aura une écoute d'une tierce personne. Du coup, il y a possibilité de transmission beaucoup plus importante. Voilà. Enfin, je ne sais pas, ça émerge là comme ça en live. Je laisse émerger. Bonne fin de journée à vous toutes et tous. N'hésitez pas à parler dans vos rencontres sexuelles de ce qui vous anime, comment vous vivez cela, comment vous avez besoin d'être accueillis, ce qui vous ferait plaisir. Et je crois que c'est déjà une partie du chemin de fait de pouvoir en parler. Bonne fin de journée. Ciao, ciao.
Comment réveiller ta puissance de femme en t'offrant l'oracle de la vulve originelle? Pour rendre la dignité aux vulves, Karine a eu l'ingénieuse idée d'associer la singularité des vulves à l'art, aux couleurs et au chamanisme. Cette inclusion permet de se réapproprier l'âme de la vulve sans vulgarité. Il s'agit alors de montrer la diversité sans activer la gêne ou le rejet. L'oracle est un outil simple et ludique pour apprendre à se réconcilier avec l'essence même des vulves. Composé de 55 cartes et d'un livret, cet oracle est un outil pédagogique de réconciliation et de libération. Les cartes permettent de comprendre et d'apprendre à l'anatomie et la diversité des vulves. Les rituels proposés facilitent la réconciliation avec l'intimité. Les mantras accompagnent la libération des hontes et des tabous. Tu l'auras compris, cet oracle est un outil indispensable pour les professionnels de l'accompagnement désirant transmettre la beauté des vulves à leur patientèle ou clientèle, aux femmes qui désirent approfondir leur relation avec leur intimité, aux hommes qui veulent comprendre et intégrer le sacré des vulves. Parée d'or et de roses pâles, son aumônière est un écrin précieux de protection. Cet oracle, 100% français, se veut novateur, audacieux, précieux et luxueux. Ensemble, rendons le beau là où il a été oublié.